construction interprétative. L'idée venait assez naturellement d'utiliser ces systèmes descriptifs ultra fins et ultra flexibles comme une sorte de matrice de données, c'est-à-dire comme la source d'une matrice de données, avec sur un axe les objets, sur l'autre les propriétés descriptives, les traits distinctifs, et d'appliquer à ces matrices descriptives, fines, précises, objectives dans ce sens, d'appliquer des techniques telles que l'analyse des données, l'autocensus, l'analyse des correspondances, bref, des techniques mathématiques. Le postulat étrange, mais nous l'avons fait, étant que la conjugaison d'une méthode descriptive précise et d'une méthode mathématique rigoureuse, parce que mathématique, devait engendrer des ordres intelligents, des ordres passibles d'une interprétation féconde. Nous avons été très nombreux à faire ce genre de postulat, explicite ou implicite, en archéologie comme dans beaucoup d'autres disciplines, y compris dans les sciences naturelles d'ailleurs, en biologie en particulier, pour constater, dans notre cas comme dans le cas de la biologie, François Jacob l'a dit abondamment, que cette démarche, la démarche dite heuristique, cette philosophie heuristique, était en fait stérile. C'est-à-dire que, malgré la précision des deux outils employés, l'outil descriptif d'une part et l'outil classificatoire de l'autre, le résultat était certes un ensemble de configurations possibles, qui avait une définition formelle dans la matrice de données, mais qui n'avait pas d'interprétation. Je m'explique, on trouvait toujours une interprétation pour justifier a posteriori la configuration qu'on avait fabriquée. Ça, c'est enfantin. On trouve toujours une interprétation, si on en veut une, c'est très facile. Seulement, le drame, c'était que ces interprétations n'avaient pas, en fait, de valeur cognitive. Autrement dit, qu'elles ne figurent pas aujourd'hui dans le savoir établi de la discipline. Le savoir archéologique actuel ne doit rien, je n'exagère pas en posant cette affirmation si forte, ne doit rien au produit de ces très nombreuses expériences ou applications d'analyse de données, conjuguant système descriptif fin et méthode mathématique, ne doit rien du tout au produit de ces expériences, y compris les nôtres. Encore une fois, ce n'est pas une critique d'autrui que je fais, c'est une critique de démarche. Les nôtres comme celles d'autrui. Et c'est un constat maintenant qui se fait, je dirais presque de façon masochiste, tout le monde maintenant se frappe la coulpe en disant « Mais pourquoi est-ce que nous avons perdu tellement de temps à suivre cette démarche heuristique qui ne nous a jamais mené nulle part ?» Alors je dirais que c'est, et je vais rejoindre mon plan interprétatif maintenant, c'est ce qui nous a conduit à cette stratégie actuelle de nous intéresser surtout à l'interprétation. Pourquoi ? Ben, vous le devinez, c'est qu'en fait, ce qui va rationaliser ou légitimer un système descriptif d'une part, et une procédure classificatoire, pour commencer par elle, d'autre part, ça n'est pas la rigueur de cette démarche, ça n'est pas la précision du système descriptif ou de la démarche mathématique, c'est ce qu'elle engendre, c'est son produit. The proof of the pudding is the eating, comme disent les Anglais, n'est-ce pas ? C'est la qualité du pudding final qui va nous dire rétrospectivement, eh bien, il est probable que le système de représentation a quelques valeurs et que la démarche classificatoire en a une aussi, parce que les deux conjugués engendrent un ordre qui est justiciable d'une interprétation empirique féconde et vérifiable sur le terrain. Autrement dit, changement radical de stratégie, on abandonne les démarches heuristiques, a priori, qui consistent à, au fond à être procédurier, procédural sur le plan descriptif et procédural sur le plan classificatoire, au profit de démarches, je dirais, axiomatiques, par symétrie, où l'on part d'ordres établis, d'ordres qui ont fait leurs preuves, et on les rationalise rétrospectivement en termes de construction ou de schématisation. C'est bien par là que j'avais commencé. Là, on parle de propositions PN établies, des propositions empiriques testées sur le terrain, et nous en avons, Dieu merci, des grandes quantités en archéologie, et on va simplement, entre guillemets simplement, essayer de les rationaliser rétrospectivement en leur retrouvant des fondements formels que ces constructions n'ont pas dans leur état présent. Donc vous commencez, je pense, à entrevoir le sens de l'entreprise, l'analyse des raisonnements, c'est de retrouver, comme je le disais initialement, les mécanismes et les fondements de constructions empiriques efficaces. Mais il faut d'abord s'assurer qu'elles sont efficaces, sinon l'exercice n'a pas d'intérêt. Donc nous en sommes aujourd'hui à, disons, une stratégie très relativiste, très particulariste, très locale dans ce sens, où nous avons complètement abandonné l'idée de ces systèmes descriptifs ou de ces systèmes sémiologiques universels. Nous avons abandonné aussi l'espoir de faire un usage intelligent des démarches de l'analyse des données, pour ne parler que d'elles, et nous nous intéressons au fond exclusivement maintenant au processus interprétatif. En mettant entre parenthèses, provisoirement, ces problèmes de description et de classification. Autrement dit, les bases de données dont nous partons sont des bases de données analogiques maintenant. Les propositions P0 sont des propositions classificatoires. Et nous admettons au départ que la partie en amont de cette base de données est elle aussi totalement obscure. Vous voyez à quel point la part de l'obscur grandit dans cette entreprise et la part de la clarté diminue au moins en extension, mais augmente, je crois, en compréhension. Nous partons de bases de données analogiques où on accepte toute proposition P0 de type analogique, de type comparé, de type classificatoire, du moment que l'appareil interprétatif qui va suivre P0 PN aboutit à des PN qui make sense, c'est-à-dire qui font du sens au sens fort du terme, c'est-à-dire que l'on peut vérifier sur le terrain. Si je devais énumérer toutes les applications, toutes les impasses par lesquelles nous sommes passés, vous seriez effarés, vous penseriez peut-être avec raison que nous avons perdu beaucoup de temps. C'est quelquefois ce que je me dis aussi, mais il est possible qu'il ait fallu passer par là pour arriver maintenant à ce que je crois être une conception plus claire de la manière de poser ces problèmes d'intelligence artificielle dans nos affaires. Donc je ne vais pas vous infliger l'énumération des échecs, ils sont très nombreux, ils sont retentissants. Le plus spectaculaire, pour être très honnête, c'est l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, qui est une grosse entreprise du ministère des Affaires culturelles, lancée par André Malraux en son temps. Nous avions été chargés, notre équipe a été chargée pendant 3 ans de mettre sur pied la systématique de la base de données de l'inventaire, qui devait couvrir, qui couvre actuellement, mais qui n'a plus l'allure qu'elle avait initialement, l'ensemble des monuments et richesses artistiques français, c'est-à-dire un corpus absolument gigantesque, à la fois en variété et en nombre. Variété, puisqu'il faut couvrir l'ensemble du domaine classé des monuments historiques, qui va des armoires bretonnes jusqu'aux cathédrales, en passant par la ferronnerie, la sculpture, la peinture, etc. Ce qui est intéressant, je m'attarde un peu sur cet exemple, qui est vraiment l'échec le plus spectaculaire, mais le plus fécond, le plus instructif, c'est qu'après avoir bâti dans les années 70 des systèmes descriptifs qui faisaient l'admiration des foules à l'époque, y compris la nôtre, lorsque nous avons injecté des données nourries de ces systèmes de représentation, nous avons constaté que les usagers n'y trouvaient pas leur compte. Même constat donc antérieurement en archéologie. Simplement, celui-ci est plus spectaculaire parce qu'il a coûté plus d'argent aux contribuables. Encore qu'assez peu. Alors maintenant, si vous voulez, ce qui remplace ces démarches, ces approches, ce sont des démarches extrêmement particulières et locales, disais-je, où on demande d'abord, nous demandons d'abord, quels sont les PN auxquels vous voulez aboutir, ou quels sont les PN dont nous partons. Autrement dit, on prend le problème par la fin. On ne part pas des bases de données, on part des propositions interprétatives. Quelles sont en archéologie aujourd'hui les propositions interprétatives établies? Il y en a des centaines de milliers, bien sûr. Prenons un exemple plus concret. Supposons qu'on s'intéresse, qui est notre problématique actuelle dans le cas des systèmes experts, à un thème qui est extrêmement populaire aujourd'hui en archéologie à travers le monde, c'est la formation des sociétés proto-urbaines ou proto-étatiques, qu'on observe dans toutes sortes de contextes, asiatiques, proche-orientales, Amérique du Sud, Mexique, etc. Il y a toute une littérature théorique intéressante sur des raisonnements qui conduisent à des propositions terminales du type, eh bien, nous sommes dans tel ou tel contexte, en présence d'une société qui est en train de passer de l'état néolithique, disons, pré-étatique, à un état proto-étatique, un état au sens de condition, en général corrélé avec le proto-urbain. Alors, les raisonnements, les démarches de l'esprit par lesquelles les archéologues arrivent à ces propositions terminales sont extrêmement variées. Variées quant à la base, c'est-à-dire que la nature des données empiriques mobilisées pour asseoir une construction de cet ordre est variable, ce qui est tout à fait légitime, et d'autre part, à base égale, c'est-à-dire à partir des mêmes bases, les cheminements du raisonnement sont également très variables. Alors, c'est cette diversité qui nous intéresse, mais dans un domaine de discours extrêmement restreint, puisqu'il s'agit seulement des constructions qui aboutissent à des PN de ce type, ça n'est pas tant s'en faut toute l'archéologie, et des propositions donc, de ce type PN qui définissent notre univers de discours, et ce que nous allons essayer de faire, ce que nous sommes en train de faire maintenant, par cette stratégie donc tout à fait différente de la stratégie ancienne, c'est de retrouver les mécanismes et les fondements de ces constructions. Alors j'en arrive, voilà pour la présentation des connaissances, ce qui revient à dire que sur le plan du contenu, en fait, je n'ai rien à dire. Ce qui peut paraître triste et décevant, mais si la question nous avait été posée il y a une quinzaine d'années, nous aurions probablement présenté ici ces très jolis systèmes, jolis parce que je crois qu'ils sont assez jolis sur le plan formel, ces systèmes de représentation symbolique, de l'ornement, de l'architecture gothique, de toutes sortes de choses. Parce que j'aurais trouvé ça intéressant. Aujourd'hui, je trouve ça inintéressant, totalement inintéressant, autrement que comme exercice de style. Donc, sur le plan du contenu, je dirais que je n'ai rien à dire tant que nous n'aurons pas, dans des univers de discours restreints, obtenu des représentations de connaissances fécondes, qui auront fait leurs preuves sur le plan formel et empirique, tant que nous n'avons pas atteint cet état-là, et nous ne l'avons pas atteint, et personne ne l'a atteint en archéologie, ni je crois dans aucune science humaine, il n'est pas utile de parler de la représentation du contenu. Alors, il reste le plan formel dont je parlais initialement, mais je répète que sur ce plan, ce que nous avons à dire n'est pas très original. Vous allez sans doute, par ce qui suit aussi, d'ailleurs, être peut-être déçu et trouver que je suis très négatif. Tout ceci, moi, me paraît éminemment constructif. Mais en général, il y a des réactions bizarres dans les audiences. Quand on présente les choses de la manière dont je les présente maintenant, on nous dit, mais vous êtes vraiment très nihiliste, très négatif, où va-t-on, etc. Mais je dirais qu'on fait des grands progrès à travers ces constats d'échec. En tout cas, notre point de vue, c'est que nous sommes beaucoup mieux équipés que nous l'étions il y a 10 ans maintenant pour aborder le problème de l'analyse des raisonnements dans une perspective IA ou autre. Alors, voyons justement la perspective IA, intelligence artificielle. Aujourd'hui, depuis maintenant 4 ans ou 5 ans, toutes les schématisations que nous fabriquons donnent lieu à une transposition en base de connaissances. Transposition qui, je l'ai montré tout à l'heure, est simple et ne justifie pas beaucoup de discours. Cela dit, que gagnons-nous lorsque nous avons transformé une schématisation en une base de connaissances? A priori, c'est une transformation biunivoque, on peut passer de l'une à l'autre, comme je l'ai montré, de sorte que vous pourriez me dire, mais à quoi bon? Bonne question. Ben, je dirais, en première approximation, en réponse à la question, c'est que, en fait, nous ne pratiquons pas d'intelligence artificielle, encore. Le fait d'avoir transformé une ou plusieurs schématisations en base de connaissances et d'avoir fait tourner un moteur d'inférence sur cette base n'implique pas que nous soyons entrés dans l'univers de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que nous ne faisons que reproduire des raisonnements que nous avons nous-mêmes fournis à l'ordinateur. Tout le package, si je puis dire, a été fourni, le système symbolique de représentation d'une part et les opérations de réécriture d'autre. L'ordinateur ne fait que les appliquer. Dans des cas heureux, l'ordinateur peut dégager sur des grandes bases de données des implications qui les ont échappées, c'est arrivé 2 ou 3 fois, mais nous les aurions trouvées tôt ou tard. Donc je dirais, pour rester sur le plan apparemment négatif, que jusqu'ici, dans les premières applications, depuis 5 ou 6 ans, nous n'avons pas véritablement entamé des processus qui justifieraient la désignation d'intelligence artificielle. Nous restons dans l'intelligence naturelle, simulée par ordinateur, mais c'est toujours l'intelligence naturelle. Il y a cependant un type d'application qui se dessine, qui peut-être commencerait à justifier l'étiquette intelligence artificielle, c'est ce que nous appelons le cumul des expertises. Un constat extrêmement fréquent, vous vous en doutez, pour tous ceux d'entre vous qui ont pratiqué des sciences humaines, quelconques, l'archéologie ou autre, c'est que les mêmes, je le disais tout à l'heure, les mêmes données empiriques donnent lieu à des interprétations différentes. La multi-interprétation, je dirais que c'est le pain quotidien des sciences humaines, des sciences en général, mais enfin, la proportion du phénomène dans les sciences humaines est tout à fait déconcertante. Je vous donne un exemple qui est, je tiens à le donner parce que c'est un exemple stéréotypé, c'est un peu l'équivalent de la phrase de Chomsky, les idées vertes sans couleur dorment furieusement. C'est le premier exemple d'analyse logiciste que nous ayons appliqué, que j'avais proposé en 1975, à propos d'une stèle, une représentation figurée. C'est le premier exercice du genre historiquement, mais curieusement, bien que ce travail ait été publié en 1975, il a été repris par la suite par d'autres que moi, en particulier par Marie-Salomé Lagrange, qui travaille dans notre équipe, pour toutes sortes de manipulations secondes ou secondaires, qui dépassent naturellement ce que j'avais fait en 1975. Mais enfin, c'est un exemple qu'on traîne depuis longtemps. Alors, je vous le montre d'abord pour égayer un peu ma présentation abstraite et aussi pour illustrer le problème de la multi-interprétation dont je voulais parler. C'est une stèle, une pierre figurée qui a été trouvée dans la ville de Konya en Anatolie, dans le rempart, et qui est datée du XIIIe siècle, et qui a donné lieu à 6 et maintenant 7 interprétations différentes, interprétations qui sont toutes fondées sur les mêmes P0. Je veux dire par là que la description de la stèle ne fait pas problème. Les sept interprètes de la stèle ont donné la même description de cette stèle et utilisent en gros à peu près les mêmes traits distinctifs. À savoir qu'il y a un petit personnage debout devant un grand personnage assis, qui sont tous les deux vêtus d'un grand manteau avec une ceinture autour, que le bonhomme assis tient un oiseau, etc., etc. Tout le monde voit cela. Mais les interprétations sont très variées. Alors je vous énumère certaines des PN proposées, dans n'importe quel ordre, ce n'est pas l'ordre chronologique d'apparition de ces interprétations. Pour les uns, il s'agit d'une scène de dressage du faucon. Vous observez peut-être que le point sur lequel l'oiseau est dressé est un point ganté. Dressage du faucon. Pour d'autres, il s'agit d'un entretien entre un maître mystique et son disciple. Pour d'autres encore, un entretien certes, mais entre un noble, un dignitaire et son mignon. c'est une interprétation analogue à la précédente, mais sur le plan profane, si je puis dire. Pour d'autres, il s'agit, c'est la plus sophistiquée, d'une scène d'investiture de chasse, une scène où le personnage assis concède à son fils le droit à l'exercice de la chasse. Cette concession intervenant au moment de la puberté, c'est-à-dire c'est une sorte de cérémonie de passage, d'initiation, qui a lieu au moment de la puberté, d'où la petite taille du bonhomme, au moins dans cette interprétation-ci. Pour d'autres encore, il s'agit d'une scène qui n'a rien à voir avec le faucon. C'est un magicien qui tient un pigeon et qui est en train de montrer, grâce à son gant, des tours de magie, de prestidigitation, à un enfant. Ça, c'est une interprétation chinoise de l'aspect. Bon, ce qui est intéressant, c'est donc, c'est un exemple simple, on a une base descriptive P0 qui est commune, mais vraiment strictement commune, à nos sept interprètes, et des cheminements différents. Je vais, de manière très impressionniste, vous évoquer l'allure de ces cheminements. Ça, c'est la schématisation en cinq niveaux d'inférence qui conduit de P0 à cette interprétation sophistiquée que j'évoquais, c'est-à-dire cérémonie d'investiture, le sultan, peu importe son nom, confère à son fils, arrivé à l'âge de la puberté, le droit à l'exercice de la chasse. Je ne détaille pas les niveaux d'inférence qui permettent de passer de la base P0 à ce PN particulier, mais sachez donc que nous avons sept schématisations de ce genre, fondées sur la même base et aboutissant à des PN différents. Alors, le problème du cumul des expertises, dont j'étais parti, je passe sur une autre schématisation, consiste à fabriquer une base de connaissances qui, dès lors, devient une base artificielle, qui est composée de la somme des bases de connaissances 1 à 7. 7 interprètes, 7 bases. 7 ensembles de règles de réécriture. Les unes avec des prémices communes et des conséquences différentes. Les autres communes à certains interprètes. Mais le tout constitue donc une base artificielle, N plus 1, une huitième base de connaissances, qui est, je répète, la somme, après certains lissages sur lesquels je passe, terminologiques et conceptuels aussi, la somme des sept bases initiales. L'idée ensuite, c'est de faire travailler cette base comme une base naturelle, et de faire comme s'il existait dans le monde un expert dont la cervelle aurait cumulé le savoir des sept autres, et de voir ce que cette base engendre. Alors nous sommes livrés à ce genre d'exercice, et ça engendre des choses triviales, qui sont en général des généralisations des interprétations précédentes. Ça n'a pas non plus donné des résultats très spectaculaires. Cela dit, je pense que la démarche de cumul des expertises est une démarche qu'il faut creuser. Mais actuellement, notre expérience et celle d'autres équipes connexes dans ce domaine est encore extrêmement limitée, de sorte que cet aspect de l'intelligence artificielle aussi est un aspect très contestable encore aujourd'hui. Mais alors, me direz-vous, où sont les retombées positives dont je parlais initialement? Eh bien, elles sont immenses, mais elles ne sont pas là où on les attend. Observe, et j'en arrive à ma dernière partie. Si vous réfléchissez à ce que représente une schématisation ou une base de connaissances, oublions maintenant les schématisations, qu'est-ce que c'est qu'une base de connaissances? C'est une organisation logico-sémantique d'un certain champ, un univers de discours. Dans le cas particulier, l'univers du discours relatif à cette stèle. Ce que constitue la base de connaissances, c'est donc une organisation conceptuelle, une vision du monde, si vous voulez, comme il est à la mode de dire, ou un monde projeté, mais propre à cet univers de discours restreint. Si on essaie de repenser ce genre d'organisation dans des termes de logique, eh bien, on tombe sur ce que Stephen Toulmin, en particulier, c'est peut-être lui qui nous a fourni les concepts les plus féconds, ce qu'il appelait déjà en 1958 des logiques de champ. Field-related logics, dans un livre qui s'appelle The Use of Argument, publié en 58 à Cambridge. Dans The Use of Argument, Stephen Toulmin développait intensément cette idée que les logiciens devaient s'intéresser dans l'avenir, un avenir à long terme, c'était le développement de ce qu'il appelait une pluralité de logiques de champ, une plurality of field-related logics, qui mettrait sur la voie de logique nouvelle, logique au pluriel, intéressante par ce que féconde dans ces champs, parce que constituant des outils utiles pour la mobilisation du savoir dans ces champs particuliers, premier point, et deuxième point, des instruments utiles aussi, disait-il, et surtout utiles pour le champ en question. Je me rappelle la phrase, pour l'avoir souvent citée, le développement de cette pluralité de logique de champs est une entreprise nécessaire non seulement pour les logiciens, mais aussi et surtout pour les chercheurs des disciplines concernées, des champs concernés. Et on voyait par le contexte de son exposé que ce qui l'intéressait, c'était effectivement les sciences humaines, comme toujours. En fait, ce que nous sommes en train de constituer, ce sont des logiques de champs. Alors, ces champs sont définis comment? Il y a deux manières de les définir. Je reprends mon schéma initial. On peut les définir soit par P0, soit par PN. Et nous faisons en fait les deux. Un champ de discours, un univers de discours en archéologie, on peut les définir soit en spécifiant le type de P0 dont on va parler. Par exemple, je prends un exemple historique, je veux dire par là qui a été traité, les vestiges osseux. Les vestiges d'eau, animaux ou humains, mais en particulier animaux. Il existe un livre, tout à fait inscrit dans la perspective logiciste, dans la nôtre, explicitement, qui traite de l'ensemble des inférences constatées dans la littérature archéologique à partir des os, OS. Et qui donne un catalogue critique, d'abord un catalogue descriptif, puis ensuite critique sur les différents types de constructions interprétatives que l'on peut asseoir sur des P0 osseux, si je puis dire. On définit par là, de façon très opératoirement très précise, ce que c'est qu'un champ particulier de discours. L'autre manière, c'est de définir par PN, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure, les constructions qui aboutissent à des propositions terminales du type « nous sommes en présence d'une société en train de passer à l'état proto-urbain, proto-étatique ». Ceci à partir de P0 quelconque. Autrement dit, si on fixe l'une ou l'autre des deux bornes, on a une manière de circonscrire un univers de discours précis, un champ précis. Et dès lors, ce qui nous intéresse, ce que nous bâtissons en ce moment, ce sont ces logiques de champ ainsi définies. Alors, quelles sont les conséquences? Eh bien, les conséquences sont essentiellement des conséquences épistémologiques, vous vous en doutez, que je voudrais illustrer par l'avant-dernier schéma. Ce que nous constatons dans ces champs, c'est la multi-interprétation. C'est une évidence, ça ne nous surprend pas du tout, simplement nous sommes un peu surpris par l'étendue du phénomène. C'est-à-dire par le fait que, bien que nous soyons supposés appartenir à une discipline organisée, visiblement nos raisonnements sont tous sauf disciplinés, même dans un sens laxiste du terme. Cette multi-interprétation peut se schématiser, au stade de schématisation au moins, par des énoncés de ce type. On a un ensemble d'opérations d'inférence qui ont les mêmes prémices P et des conséquences Q1, Q2, Qn différents. Ce qu'on pourrait écrire dans le jargon système expert, si P, alors Q1 ou Q2 ou etc. Le problème, c'est qu'il est assez incommode, pour ne pas dire exclu, ça dépend des cas, de traiter des disjonctions dans les règles d'inférence des systèmes experts. Donc on est conduit, ne serait-ce que pour ces raisons pratiques, mais aussi, Dieu merci, pour des raisons de fond, des raisons théoriques, on est conduit à s'interroger sur la source de ces multi-interprétations. D'où viennent-elles? Et surtout, que peut-on faire pour lever ce qu'on peut lever de ces ambiguïtés, de ces indécisions? Bien, le mécanisme est simple, il n'a rien d'original. Il consiste à rechercher des compléments d'informations qu'on va ajouter aux prémices, à la partie gauche, et qui vont conduire à des interprétations ou des inférences univoques. Si l'on associe à Q1 un complément C1, appelons le complément pour commencer, alors on dérive Q1 et seulement Q1, si C2, Q2, etc. Qu'est-ce que représentent ces compléments? C'est ça le point important, c'est-à-dire que c'est le point le plus important de toute l'entreprise. Eh bien, ce sont des indicateurs que vous pouvez interpréter de façon différente grâce à la polysémie, si je puis dire, du symbole C. Ce sont des clauses complémentaires, ce sont des conditions supplémentaires, ce sont des compléments ajoutés aux prémices, et ce sont surtout, je dirais, des contextes. On recherche les contextes dans lesquels la prémisse P va vouloir dire, si je puis dire, ou nous autoriser à dire Q1, d'autres contextes où la même prémisse P va nous autoriser à dire Q2, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que c'est que ce processus de contextualisation de nos opérations? Eh bien, c'est un processus de localisation. À une pseudo-règle générale, si P alors Q, nous substituons plutôt à une pseudo-opération générale, une pratique discursive, si lâche, si P alors Q, nous substituons un ensemble de règles, non plus des pratiques mais des règles, mais qui sont des règles immensément locales. Dans le contexte C1, P veut dire Q1. On peut faire dire à P Q1 dans le contexte C1, etc., etc. Or, si vous réfléchissez à l'instant, il est évident que la recherche de ces contextes de légitimation de nos opérations discursives, qui justifient le passage à des règles, autrement dit le passage de pratiques discursives à des règles d'inférence, c'est la définition du mouvement même du progrès cognitif dans une discipline quelconque. Remplacer des pratiques discursives riches en ambiguïté de toutes sortes, en équivoque, par des règles ou des règles potentielles, des candidats règles, je dirais, qui sont beaucoup plus locales, donc on a perdu en extension, si vous voulez, mais on a gagné en compréhension de façon spectaculaire, puisqu'on ajoute, on spécifie le contexte dans lequel l'opération est légitime, justifiée. Ce qui est tout à fait frappant, c'est de voir à quel point le mouvement maintenant est déclenché depuis, je dirais, 5 ou 6 ans. Je crois pouvoir dire, grâce à des travaux de ce type, pas seulement les nôtres, à quel point le mouvement en archéologie est déclenché vers, je dirais, la recherche systématique de ces compléments ou de ces contextes C1, C2, CN appliqués à des opérations quelconques. Autrement dit, tout se passe comme si aujourd'hui l'archéologie tout entière était engagée dans un processus de recherche de, des fondements de ce qui jusqu'ici n'a été que des pratiques discursives pour essayer de les transformer en des règles de raisonnement bien formées et légitimées. Alors, je reprends le schéma précédent. La légende du bas a dû peut-être vous intriguer. L'interprétation de C1, CN, fondement ethnologique, idéologique, je n'ai pas beaucoup le temps de parler de ça, mais il est clair que si on réfléchit à la nature de ces contextes additionnels, ce sont bien les fondements que nous allons expliciter, élucider de nos pratiques qui justifient ces pratiques et les transforment en règles. Et ces fondements, on peut montrer, quand on a le temps, mais je n'ai pas le temps, on peut montrer qu'ils ont une origine unique, qui est ethnologique au sens large, mais ethnologique comprenant l'idéologie de l'observateur autant que de l'observé. D'ailleurs, ça revient au même, c'est toujours de l'ethnologie. Et c'est toujours du fondement ethnologique, en fait, que nous élucidons, que nous dégageons, appartenant à l'observateur ou à l'observé. Alors, je disais que l'archéologie tout entière est engagée dans ce processus. Je dirais que pour nous, c'est la retombée principale. Elle peut s'observer de façon très concrète et vérifiable. Vous pouvez le vérifier vous-même par des ouvrages récents. Il y en a un qui vient de paraître il y a 3 mois, qui s'appelle l'archéologie demain, 400 pages, consacrées exclusivement au contrôle des inférences en archéologie. Conférence dans 2 mois aux États-Unis, à Bloomington, centre religieux de la sémiotique. Cette conférence est d'ailleurs sous le patronage de la sémiotique pour des raisons historiques un peu contingentes. Et cette conférence est entièrement consacrée, franco-américaine, entièrement consacrée au contrôle des inférences en archéologie. Alors, vous me direz que ça n'est pas de l'intelligence artificielle, peu m'importe, mais c'est un produit d'un mouvement de recherche orienté vers l'intelligence artificielle, qui n'exige pas de passer par l'intelligence artificielle, mais qui a pour conséquence ces retombées épistémologiques qui constituent donc notre aboutissement principal, le point 1 ici. Je passe maintenant sur des choses plus secondes et secondaires. Il me reste 5 minutes, je crois. Une deuxième conséquence qui peut vous paraître très pratique, utilitaire et moins intéressante, mais à nos yeux tout autant, c'est ce que nous appelons d'un vilain mot la compaction de nos écrits. J'avais indiqué initialement qu'une des motivations de ce vaste programme de recherche était le sentiment que nous ne pouvons plus continuer à écrire des textes que personne ne lit. Que personne ne lit parce que nous en produisons trop. Et nous sommes inondés chaque jour de vingtaines ou de trentaines de tirés à part. Il est hors de question de les lire. Ils nous intéressent tous. Ils sont tous pertinents pour notre domaine. Mais si nous les lisons, nous ne faisons plus rien d'autre. Non seulement pas de recherche, mais beaucoup d'autres choses encore plus intéressantes que la recherche que nous ne faisons pas non plus. Par conséquent, il faut trouver une autre solution pour transformer l'expression du savoir sous des formes plus compactes, plus économiques, disons. Et pas économiques seulement en finance, encore que les institutions nous poussent beaucoup aussi dans ce sens pour des raisons financières, mais économiques en temps. Or, vous pouvez deviner, je pense, ce que sont ces formes alternatives, si je peux employer cette expression malvenue en français. Eh bien, ce sont les schématisations. Une schématisation du type de celle que je vous ai montrée tout à l'heure, je la rappelle pour la stèle seljoukide, si je la retrouve, c'est quelque chose qu'on apprend extrêmement vite à lire, comme on lit un papier, comme on lit un article. Je vais en retrouver un petit morceau, voilà. Je dirais que tout ceci, c'est la schématisation d'un article qui fait 12 pages. Il n'y a rien, la base de données P0 n'est pas explicite ici. Il faudrait ajouter à cette schématisation une table, qui existe d'ailleurs, qui est la table des traits distinctifs mobilisés dans P0. C'est une petite table qui fait 10 lignes. La table vous donne P0, la base sémiologique, et la schématisation vous donne les règles de réécriture qui engendrent PM. Quand vous avez ces deux éléments, vous avez tout l'article. Il n'y a pas de perte d'information. Ce n'est pas un résumé. C'est une compaction véritable, mais ce n'est pas du tout un résumé. Il n'y a aucune espèce de perte d'information. Je le dis d'autant plus volontiers que maintenant nous sommes entrés dans un processus où nous réécrivons nos propres articles. Ça, c'est un article d'un autre. Alors, vous pourrez m'accuser de l'avoir compacté un peu trop excessivement. Mais lorsque nous pratiquons ces mêmes exercices sur nos écrits, nous constatons que des articles de 20 pages écrits de notre plume, et nous essayons de ne pas être trop bavards, se schématisent en une page, sans perte d'information. Alors, pour ceux d'entre nous, d'entre vous, qui trouveraient cette schématisation indigeste, ils sont nombreux actuellement, ça changera dans les décennies qui viennent, on peut naturellement en trouver une paraphrase naturelle. On peut paraphraser cette schématisation en langage naturel, mais ce langage naturel va être non pas un résumé, non pas une indexation, mais une forme compacte de la construction. Alors, pour montrer à quel point ce mouvement est massif actuellement, je vous informerai, car je doute que vous le sachiez déjà, que la British Library, la Bibliothèque nationale de Londres, qui est l'institution dominante sur le plan des les recherches en sciences d'information et intelligence artificielle appliquées à l'information en sciences humaines en particulier, a inscrit ce thème comme un de ses thèmes prioritaires. La dernière conférence de recherche, que j'ai eu l'honneur d'être invité à faire, mais ce n'est pas moi qui choisis le sujet, avait pour titre les publications, les systèmes experts et les publications savantes. Sous-entendu, la fin des publications savantes, virgule, conséquence des systèmes experts. Fin des publications savantes, entendons-nous, sous leur forme traditionnelle. Et les raisons qui précipitent cette fin sont, je répète, essentiellement d'abord des raisons pratiques, c'est qu'on ne peut plus continuer à vivre le paradoxe où nous sommes d'une production qui dépasse de 20 à 30 fois nos capacités de consommation, c'est déraisonnable. Et d'autre part, des raisons théoriques qui sont plus intéressantes, plus importantes, qui sont contenues en, au moins dans l'œuf, dans ce que je viens de présenter ici. Alors voilà la deuxième conséquence, c'est donc cette compaction des textes de sciences humaines, et j'ai rappelé dessous le titre de ceci, qui va d'ailleurs paraître sous forme d'un petit bouquin, Systèmes experts et publications savantes. Alors j'en viens à mon dernier point, si vous m'autorisez encore. Oui, 4 minutes près. Dernier point, c'est celui que j'ai laissé ouvert au début. Ces schématisations sont des réécritures de textes scientifiques. Et beaucoup de gens nous disent, ne cessent de nous dire, avec souvent beaucoup d'agressivité, mais pourquoi diable est-ce que vous n'utilisez pas des techniques linguistiques pour fabriquer ces schématisations? Autrement dit, des techniques d'analyse de discours qui vont prendre le texte naturel comme entrée et vont vous cracher des schématisations. À quoi nous répondons comme un seul homme, avec joie, avec plaisir, apportez-nous l'algorithme. On nous dit bien sûr, mais allez le chercher vous-même, à quoi nous répondons, mais nous avons joué à cela pendant 15 ans. Que veux-je dire par là? Eh bien, s'agissant d'un autre type de produit, mais beaucoup plus simple que celui-là, à savoir des indexations, vous savez ce que c'est, des représentations du contenu d'écrits scientifiques en termes de descripteurs, avec une syntaxe en général entre les descripteurs, nous avons consacré 12 ans et un livre entier qui s'appelle « Procédure d'analyse sémantique appliquée à la documentation scientifique », par exemple 70, c'est ancien, à voir ce qu'il en coûterait de prendre ce cahier des charges au sérieux. C'est-à-dire, effectivement, de fabriquer des algorithmes, en fait, des méthodes d'analyse automatique du discours qui transformeraient des textes naturels en une indexation, qui est une représentation beaucoup plus simple qu'une schématisation. Et nous avons constaté ce que beaucoup d'autres gens ont constaté à l'époque, c'était que l'entreprise était absolument démente en complexité. Non pas du tout formellement indéfendable, elle est parfaitement défendable, mais disons pratiquement, ça dépasse de beaucoup les moyens de recherche qu'il faut à notre disposition. Non pas du tout en termes de finances, mais en termes de temps. Et j'en viens à un paradoxe de cette, pour éliminer cette, toute allusion à une possibilité d'analyse linguistique produisant des schématisations, c'est la voie rapide de démonstration, mais je n'ai pas le temps de faire plus. L'idée, c'est que, à supposer qu'il existe une démarche de ce type, elle serait paradoxale. Pourquoi paradoxale? Parce que le temps qui serait investi pour la fabriquer, pour mettre au point cette démarche d'analyse automatique de texte naturel en schématisation, serait supérieur à la durée de vie du langage cible. Vous voyez ce que je veux dire? Le langage cible, c'est quoi? C'est la schématisation. Schématisation, c'est un produit éphémère. Comme toute construction scientifique, elle n'est pas destinée à durer, elle est destinée à disparaître. C'est son destin le plus fécond, c'est d'être remplacé par quelque chose de mieux. Par conséquent, il est probable qu'au moment où nous aurons, après 10 ou 15 ans de recherche, trouvé un algorithme qui va nous transformer un texte français de 12 pages en une schématisation, si je dis 12-15 ans, c'est à peu près le temps qu'il faudrait, la schématisation n'aura plus d'intérêt. Par conséquent, il est inutile même d'imaginer des démarches d'analyse linguistique du discours qui engendreraient des schématisations. J'insiste sur ce point parce qu'on trouve dans la littérature d'intelligence artificielle toutes sortes d'allusions à cette possibilité. La fabrication automatique de bases de connaissances. Pour moi, c'est une utopie, au sens sérieux du terme. On peut naturellement faire des manips, des applications pilotes, des démonstrations sur des petits corpus, où on va, par un processus de type algorithmique ou déclaratif, peu importe, engendrer quelques règles qui feront la matière d'une base de connaissances fictive. Mais il est certain qu'on n'aura aucun usage concret, pratique, appliqué de cette base. Donc on sera dans l'univers des démonstrations, on en a eu tellement déjà que je crois que ce n'est pas utile de continuer. Et je dirais la même chose du second aspect, c'est l'aspect logique après l'aspect linguistique. On nous dit aussi, mais il existe toute une série de recherches, dont celle de Jean-Blaise Gris et de ses gens, 57 volumes parus, c'est quand même pas rien, sur la logique naturelle. Pourquoi ne faites-vous pas usage de cette littérature? La réponse est la même, c'est qu'on ne trouve rien dans cette littérature sur la logique naturelle qui nous donne l'embryon de quoi que ce soit qui commencerait à ressembler à une règle de réécriture, mais rien. Et je n'ai pas le temps de montrer à quel point il serait également paradoxal d'imaginer que la logique naturelle, à supposer qu'on lui donne un sens concret, opératoire, et nous en sommes loin, pourrait constituer un outil utile pour nous, à quel point ceci serait aussi paradoxal. Et j'en viens à mon dernier point, c'est le rapport avec la sémiotique. Après tout, ce colloque, qui est un colloque de sémiotique et de cognition, Alors, j'ai indiqué au début que ce programme a été placé en 62 sous le titre sémiologie informatique. Je ne récuse pas du tout le titre. À l'époque, sémiologie était un terme encore, disons, vide. J'entends par vide qu'on n'avait pas rempli toutes sortes de choses, très belles. On avait donc le droit de l'utiliser dans des sens qu'on pouvait spécifier, qui ne faisaient pas conflit avec d'autres sens. Je dois dire que la suite du temps a compliqué les affaires beaucoup et qu'on a souvent compris que notre entreprise se rattachait à toutes sortes d'autres entreprises baptisées sémiologiques, mais vous voyez à quel point nous sommes très éloignés de ce qu'on a coutume de voir sous l'étiquette sémiologique. Ce que j'entendais par là, c'était quelque chose de très précis, et c'est toujours quelque chose de très précis, c'est l'interprétation du terme sémiotique que proposaient dans les années 30-40 des logiciens, Carnap en tête, puisque c'est lui qui avait la paternité de ce projet de l'Encyclopédie internationale de la science unifiée, qui était fondée sur l'idée que l'analyse logique, en termes carnapiens, du langage des sciences était une manière de contribuer à élucider les mécanismes et les fondements de ces sciences. Bon, projet repris, vous le savez, ensuite par Charles Morris sous l'étiquette de la sémiotique, puisqu'après tout, le volume historique de Morris est paru, c'est un des rares volumes parus dans la collection de l'Encyclopédie internationale des sciences unifiées, son livre sur la fondation de la théorie des signes. Et j'ai pensé qu'il était légitime de rattacher l'entreprise, notre entreprise, et je pense encore qu'il était légitime de la rattacher à ce courant de la sémiologie. Et donc la sémiotique dans ce sens-ci. Alors, sémiologie informatique, c'était donc sémiologie pour le pôle représentation, informatique pour le pôle traitement, car nos opérations de réécriture sont des opérations de traitement. Aujourd'hui, on appellerait ceci représentation et traitement des connaissances, et vous pouvez d'ailleurs vérifier l'homologie entre les deux couples en les appariant. Vous pouvez dire représentation sémiologique et traitement informatique des connaissances. Donc, mon expression, ma désignation archaïque, sémiologie informatique, et l'équivalent strict de ce qu'on appelle aujourd'hui représentation et traitement des connaissances. Il suffit d'apparier les deux couples pour retomber sur nos pieds. Quant à l'étiquette logiciste, eh bien, je l'avais gardée pour la fin. Pourquoi est-ce que nous appelons tout ceci analyse logiciste? Pourquoi est-ce que nous plaçons l'entreprise dans le courant logiciste? Eh bien, parce que logiciste, c'est en fait un autre nom que l'on peut donner au même projet. L'idée que l'analyse du langage spécialisé, du langage scientifique, d'une discipline dure, est une manière de contribuer à élucider ses fondements. Épistémologie certes, mais épistémologie pratique, je finis par ce terme, puisque c'est aussi un des noms que nous donnons à l'entreprise, épistémologie pratique, puisque les considérations épistémologiques qui nous occupent ne sont pas des considérations philosophiques, spéculatives, elles sont éminemment normatives, vous avez vu à quel point, et sur le plan du contenu, et sur le plan de la forme même de nos écrits. Merci.
Je remercie M. Gardin d'avoir fait le procès avec tant de probité et de pénétration des efforts entrepris dans le passé, d'avoir montré leurs limitations et leurs échecs, et d'avoir cependant débouché sur des conclusions extrêmement positives, puisqu'aussi bien il a revalorisé et donné une valeur opératoire à ce qui occupe généralement une place fort modeste dans les livres de logique, à savoir l'antimème, cette démarche par laquelle on raisonne avec un raisonnement incomplet que l'on doit compléter en introduisant les prémices manquantes. Ici, ce n'est plus un exercice d'école, c'est toute une méthodologie qui s'inspire de cette notion d'antimème. Par ailleurs, il a introduit cette distinction extrêmement importante entre intelligence naturelle simulée et d'autre part intelligence artificielle, et ceci est certainement de nature à éclairer le débat qui va suivre. Enfin, je ne peux ici manquer de mentionner les rapprochements que l'on peut constater entre les efforts actuels des logiciens qui ont cessé de raisonner dans l'abstrait et qui de plus en plus prennent en compte les limitations pratiques, qui construisent maintenant des formalismes qui peuvent être implémentés en temps réel et qui ne s'occupent plus seulement d'avoir des preuves finies, mais cherchent à avoir des preuves qui peuvent se terminer dans un délai raisonnable. Et ce genre de contrainte nouvelle est également constant dans les préoccupations de M. Gardin. Mais ce n'est pas mon rôle d'en dire plus. Je voulais simplement ici exprimer le sentiment de l'Assemblée devant la richesse épistémologique du programme qui nous est proposé et ouvrir tout de suite la discussion. clé.
La première question, c'est par rapport au petit c, c'est-à-dire contexte, c'est-à-dire avec une règle du type, puisqu'on a la règle P serait écrit QI, mais on ajoute cette règle QI, si, CI, donc si, dans tel contexte. Alors, ces contextes, cet ensemble de contextes a été interprété ou a été justifié comme étant des fondements ethnologiques, si on travaille sur une discipline comme l'ethnologie, ou voire même des fondements idéologiques. La question est, peut-on toujours faire verbaliser ces contextes, les faire apparaître au niveau d'une verbalisation, et donc après procéder à une schématisation pour l'exprimer sous forme dans le langage de la schématisation. C'est la première question. Deuxième question, je ne parlerai bien sûr pas de la procédure de schématisation, qui n'est pas un algorithme, ça je le crois volontiers, mais du langage lui-même, le résultat de la schématisation. Alors il semble, cas dans les exemples qui ont été donnés, que ça soit un sous-ensemble du langage propositionnel, avec peut-être quelques petits ajouts. Alors, ça met en cause le problème de la compactification, des textes, puisqu'on a des textes scientifiques qui sont écrits en langue naturelle, plus d'autres choses, parce qu'il y a bien souvent des ajouts qui sont propres à une discipline, prenons un texte de chimie, par exemple. Et ça voudrait dire, à ce moment-là, que tout est rabattable dans un sous-ensemble du langage propositionnel. Ce qui pose quand même problème, puisqu'il existe d'autres types de modes de représentation des connaissances qui ne sont pas du langage propositionnel, ni même du langage prédicatif. Et puis, est-ce que finalement, tout ce qu'on émet en langue naturelle, est-ce que tout serait rabattable de langage propositionnel? Donc, ce sont deux questions.
Oui, pour la première, les fondements ethnologiques des inférences, en fait, ce n'est pas en ethnologie que les fondements sont ethnologiques ou en archéologie qu'ils sont archéologiques, je dirais qu'ils sont partout ethnologiques. L'ethnologie est prise dans un sens allégorique, enfin, pas métaphorique, mais dans un sens extrêmement général. Je prends un exemple. Supposons que l'on passe du constat de l'existence de vestiges d'irrigation anciens, c'est un exemple historique qui fait couler beaucoup d'encre, des vestiges d'irrigation savants, compliqués, sophistiqués, mais très anciens, à l'inférence ou à une chaîne d'inférence qui aboutit à l'idée qu'on est en présence d'une...